Le ministre Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, a annoncé l'octroi de 9 400 000 $ ou presque 9,5 millions finalement, à Hydro-Québec pour installer 215 bornes de recharge rapide pour des véhicules électriques au Québec d'ici la fin de 2022. Alors, de quelle façon ça va se mettre en action tout ça et pourquoi on donne de l'argent à Hydro-Québec? Stephen Guilbeault est ministre du Patrimoine canadien. Il est avec nous. Bonjour, M. Guilbeault.
Bonjour.
Alors, pourquoi au juste est-ce qu'on donne 9,5 millions à Hydro-Québec pour installer des bornes de recharge?
Bien, Hydro-Québec est un leader en matière d'électrification des transports depuis longtemps. Oui. Lorsque j'étais à Équiterre, j'ai beaucoup travaillé avec les gens chez Hydro-Québec. Ça a été une des premières compagnies d'électricité au Canada à se tourner vers l'électrification des transports. Donc, c'est tout à fait naturel pour nous de nous associer à Hydro-Québec et Hydro, d'ailleurs, a déjà déployé des milliers de bornes partout avec ses partenaires partout au Québec.
Ouais.
Donc, c'était normal pour nous de nous tourner vers eux.
Alors, c'est des bornes à recharge rapide qu'on appelle. Alors, ça sert à quoi? Ça va aller plus vite, autrement dit, pour recharger les voitures avec ces bornes-là, c'est ça?
Exactement. Alors, il y a différents types de bornes. Donc, par exemple, si vous avez une voiture électrique, vous installez une borne à la maison, c'est pas ce qu'on appelle une borne rapide, mais vous n'avez pas besoin de vous recharger en 20 minutes. Là, vous branchez la voiture, vous la reprenez le lendemain matin. Ces bornes-là, on les retrouve dans des quartiers résidentiels. Il y en a autour de chez nous, sur le plateau Mont-Royal. Mais lorsqu'on parle de par exemple, dans des endroits publics, sur le bord des autoroutes, épicerie. Là, ce sont des bornes où en à peu près 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes maximum, on peut recharger jusqu'à 80% des batteries d'une voiture électrique. Et moi, je sais, bon, j'ai pas de voiture dans la vie, mais ma voiture de fonction, la voiture ministérielle, c'est une voiture 100% électrique.
Ah oui?
Ces bornes-là, donc, permettent de faire des recharges rapides et elles sont de plus en plus en demande. Quand je fais Montréal-Ottawa pour le travail, on doit arrêter quelque part, ben parfois il faut attendre parce qu'il y a quelqu'un qui veut se recharger ou il y a quelqu'un qui attend après nous pour se recharger. Donc ces bornes-là, elles sont très en demande.
Mais vous n'avez pas de voiture, vous, personnellement?
Non, moi j'ai pas de voiture.
Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes ministre ou?
Non, ben je suis ministre depuis 2 ans, j'ai 51 ans, alors j'ai fait un bon bout de temps dans la vie sans voiture. J'habite le centre-ville de Montréal, j'ai pas besoin de posséder une voiture, je suis membre de Communauto, donc quand j'ai besoin d'utiliser une voiture, ben je paye pour, je la prends pour une demi-heure, pour une heure, je paye pour une demi-heure, une heure, mais j'ai jamais eu besoin de posséder de voiture. Je comprends que c'est pas le cas pour tout le monde, là, mais pour moi, ça a toujours bien fonctionné comme ça.
Bon. Cette annonce-là arrive la même journée où on apprend que Ottawa va donner 5,2 milliards à Terre-Neuve-et-Labrador pour le projet de Muskrat Falls, qui est un immense projet là, dans le Labrador. Littéralement, là, c'est pour éviter que la province tombe en faillite, là, parce que c'est les coûts ont explosé dans ce projet-là. Alors, il n'y a pas une espèce de contradiction dans le fait, justement, qu'on finance un projet d'hydroélectricité là-bas, à Terre-Neuve-et-Labrador, alors qu'au Québec, justement, quand on a développé notre système hydroélectrique, ben, ça s'était fait de façon autonome. Le Québec l'a financé lui-même, ces infrastructures.
Ben, vous l'avez dit, là, je pense que ce qui s'est passé à Terre-Neuve, c'est un projet qui a été très mal géré. Et là, si on n'intervenait pas, les tarifs d'électricité de la population à Terre-Neuve auraient doublé. Alors, imaginez demain matin, partout au Québec, on dit aux gens, ben écoutez, il y a eu un problème avec un très gros projet, et là, vos tarifs d'électricité vont doubler. Il fallait qu'on intervienne, puis je veux dire, on l'aurait fait pour n'importe quelle province. On l'aurait fait pour le Québec, on l'aurait fait pour n'importe qui. C'était une nécessité. On ne pouvait pas permettre que du jour au lendemain, les gens payent deux fois plus cher leur électricité. Puis oui, c'est pas une erreur du gouvernement fédéral, mais le gouvernement fédéral, on est là pour aider les provinces, pour aider les gens partout au pays.
Alors, quand Justin Trudeau justifie ce 5,2 milliards en disant que ça va réduire l'émission des gaz à effet de serre, c'est un prétexte, dans le fond, pour essayer de faire passer la pilule. Parce que ce que vous dites, c'est que on le fait pour aider la province qui a mal géré un projet et on veut empêcher la province de tomber en faillite.
Non, mais ça va aussi. Je veux dire que le Québec a un excellent bilan en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nos émissions par personne au Québec sont à peu près la moitié de la moyenne canadienne. Pourquoi? Largement grâce à l'hydroélectricité, bon, puis de plus en plus l'éolien.
Ouais.
Mais donc, le premier ministre Trudeau a tout à fait raison. Ce projet-là va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a un enjeu de coût. Alors, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue gaz à effet de serre, c'est tout à fait vrai ce que dit le premier ministre. Il y a un enjeu de coût pour la population où là, il fallait intervenir.
On peut pas, vous pouvez pas renier votre passé d'environnementaliste, M. Guilbeault. Quand vous avez vu la semaine dernière que le gouvernement du Québec mettait la hache dans le projet GNL Québec, étiez-vous content?
Ben, nous-mêmes, au fédéral, on allait faire l'évaluation du projet en fonction du processus fédéral d'évaluation d'impact l'automne prochain de ce projet-là. Mais écoutez, je pense que ce qu'on a vu au Québec, c'est ce qu'on est en train de voir un peu partout sur la planète. D'ailleurs, depuis 2019, au niveau fédéral, il n'y a eu aucune approbation de grands projets pétroliers, de mines de sable bitumineux. Et l'Agence internationale de l'énergie, qui est un peu l'agence qui conseille tous les pays industrialisés, donc le Canada, les États-Unis, l'Europe, a publié un rapport il y a quelques semaines où il recommande aux pays membres de ne plus investir dans des projets de combustibles fossiles à cause des changements climatiques, d'une part, mais aussi parce qu'on a de plus en plus de technologies, soit au niveau renouvelable, soit au niveau des transports. On parlait d'électrification tout à l'heure. Au Québec, on est rendu à 8% des ventes de nouvelles voitures qui sont des voitures électriques. En Colombie-Britannique, c'est 12%. Dans certains pays, je pense à la Norvège, on est rendu à plus de 50%. Donc, une voiture sur deux en Norvège qui est vendue est une voiture électrique. Alors, l'Agence internationale de l'énergie nous dit, écoutez, il faut arrêter d'investir dans les nouveaux projets de combustibles fossiles. Et je pense que la décision que le gouvernement du Québec a prise va certainement dans cette direction-là.
Alors, ce que vous dites, c'est que même si on avait accepté le projet du côté du gouvernement du Québec, peut-être qu'il y aurait eu un écueil du côté fédéral.
Bien, on n'a pas fait l'analyse. Je pense que c'est important. Parfois, les gens voient un projet et disent, demandent au gouvernement à Québec ou à Ottawa, dites non. Attention, on a des processus de consultation publique, on a des processus d'évaluation environnementale. Je pense que c'est important qu'on ait des processus rigoureux pour pas que les décisions se prennent à l'arbitraire, sur le coin d'une table.
Ouais.
Alors, on aurait fait l'analyse de ce projet-là, mais ce que je vous dis et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les gouvernements à l'échelle de la planète disent non à ce genre de projet-là, largement à cause des changements climatiques, mais aussi à cause des autres options que nous avons maintenant d'un point de vue énergétique.
Parlez-moi de ces 10 un peu.
Ben, donc, le projet de loi pour forcer les géants du web à payer leur juste part
ce qu'ils doivent.
De culture, exactement. Ouais. Ben, ce projet-là a passé l'étape de la Chambre des communes. Il est devant le Sénat. À plusieurs reprises, moi, j'ai demandé aux sénateurs
de revenir en chambre, de venir travailler.
Ben oui, puis d'adopter ce projet de loi-là. Là. Chaque mois qui passe, c'est 70 millions de dollars qu'on prive notre industrie culturelle partout, nos artistes partout au pays. Donc, faites 23, 24, 25% de ça, puis ça vous donne une idée de ce qui est perdu pour les artistes au Québec. Alors, on demande effectivement au Sénat d'adopter le projet de loi le plus rapidement possible.
Mais là, ça arrivera pas avant la prochaine élection, là, de ce qu'on peut comprendre.
Écoutez, moi, je ne sais pas quand est-ce que la prochaine élection va avoir lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés à faire adopter ce projet de loi-là et nous sommes déterminés à nous assurer que les géants du web paient leur juste part. C'est une question d'équité.
Oui, mais là, on parle d'élection probablement quelque part au début de l'automne. Il y a des dates avancées, le 3 octobre, entre autres, ce serait peut-être possible, le 10 octobre, dans ces eaux-là. Si jamais l'élection était déclenché pour se tenir au début du mois d'octobre, les sénateurs n'auront jamais adopté le projet de loi?
Les sénateurs peuvent revenir. Ils ont toute la liberté.
Mais ils ne sont pas revenus en ce moment.
Ils l'ont pas fait encore, mais ils ont la possibilité de le faire pour adopter ce projet de loi-là. Et c'est clair pour nous que ce projet-là ou une autre mouture de ce projet de loi-là va voir le jour. On va travailler jusqu'à ce que ça arrive.
OK. Donc, vous êtes à vous préparer au fait que si on tombe en élection, ce projet de loi-là va mourir au feuilleton, puis on va être obligé de recommencer l'exercice lors de la prochaine élection. En fait, lors du prochain gouvernement de la prochaine Chambre.
Est-ce qu'il va y avoir des élections? Bien honnêtement, je sais qu'on en parle beaucoup, mais tant que l'élection n'est pas déclenchée, il n'y a pas d'élection. Et ça se pourrait qu'il n'y en ait pas. Il y a beaucoup de gens. Ce ne serait pas la première fois où tout le monde dit on s'en va en élection, puis on n'y va pas. Alors, dans ce cas-là, le Sénat aura toute la liberté de terminer son travail et de nous permettre d'adopter le projet de loi C-10.
Mais est-ce que vous vous préparez à ça, à ce que ce projet de loi-là tombe, meure au feuilleton, qu'il ne soit pas adopté par le Sénat et qu'on soit obligé de recommencer lors de la prochaine session parlementaire sous un autre gouvernement?
Je ne travaille pas sur ce scénario-là. Pour moi, il faut que le projet de loi C-10 soit adopté. Il a déjà passé, comme je le disais, l'étape de la Chambre des communes. Il y a eu des consultations, il y a eu des travaux en comité parlementaire. Les intervenants, le secteur culturel au Québec, mais partout au pays, demandent l'adoption du projet de loi C-10. Tous les partis à la Chambre des communes ont voté en faveur du projet de loi C-10, sauf le Parti conservateur. Alors, il y a énormément de consensus autour de ce projet de loi-là, et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit adopté le plus rapidement possible par le Sénat.
M. Guilbeault, merci d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir. Bonne journée.
Au revoir, Stephen Guilbeault, le ministre du Patrimoine canadien, le député de Laurier-Sainte-Marie.